Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 28 novembre 2017. Morgane Guériec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, Emmanuel Macron en visite au Burkina Faso. Nous consacrerons une fenêtre spéciale à son discours à Ouagadougou. Le président kényan Uhuru Kenyatta investit aujourd'hui pour un second et dernier mandat. La Mauritanie célèbre son indépendance avec un nouvel hymne national et un nouveau drapeau. Et puis en Guinée, les radios et télévisions privées ont suspendu leur programme pour 24 heures suite aux menaces du président Alpha Condé. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Emmanuel Macron au Burkina Faso. Le président français a prononcé un discours face à 800 étudiants de l'université de Ouagadougou. Une visite qui n'est pas du coup de tous puisque des protestataires ont caillassé un véhicule du cortège présidentiel. Le point sur place avec Zoumana Wonogo.
D'entrée de jeu, dans son exposé, comme pour séduire l'auditoire, le président Emmanuel Macron a planté le décor par une référence au capitaine Thomas Sankara.
La construction de l'avenir que vous osez inventer, selon la belle formule d'un de vos compatriotes. Vous l'avez reconnu, c'est une formule de Thomas Sankara, à qui je souhaite solennellement rendre hommage. Parce que je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France.
Dans la deuxième partie, les questions qu'on disait qui fâchent ont été abordées. Le président Macron a rassuré sur la déclassification des archives concernant le dossier Thomas Sankara. L'affaire François Compaoré reste dans les mains de la justice. Et sur le franc CFA, voici ce qu'il a dit.
Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Caboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus.
Il n'y est plus. Que pensent les Burkinabés de ce discours de Emmanuel Macron? On écoute Gilbert Noël Ouedraogo, il est le président de l'ADF RDA.
J'apprécie la partie où il dit qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Et c'est ce que tout le monde souhaite, parce que ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que chacun puisse assumer son histoire et que chacun puisse gérer son État selon sa vision et que nous ayons des rapports de partenariat.
Pour Yassine Sanou, journaliste, voici ce qu'il a retenu.
Le premier grand point que je retiens, c'est ce langage de vérité. Il a eu un langage de vérité et même a dû, par moments, être cru envers les étudiants et le peuple d'une manière générale. C'est nos problèmes, c'est d'avoir notre faute. Tout n'est pas la faute de la France. On ne veut pas, dans un moment donné, de la France, mais au premier quoi, on appelle à la France. Donc, il y a un peu cet esprit-là de syndrome de Stockholm, je dirais. Nos problèmes, c'est d'abord notre faute.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Alors, vous venez de l'entendre dans le reportage de Zoumana Wonogo. Le président Emmanuel Macron a évoqué le dossier judiciaire sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara, tué dans un coup d'État le 15 octobre 1987. Il a promis de déclassifier tous les dossiers sur le coup d'État contenus dans les archives françaises, à l'exception de ceux couverts par le secret défense. Bagassi Koura a joint l'un des avocats de la famille Sankara, Maître Prosper Farama.
Que les éléments effectivement soient déclassifiés et que les juges puissent avoir accès effectivement à des informations substantielles, en espérant qu'il n'y aura pas une déclassification à vider de la substance des éléments essentiels. Sinon, si effectivement les éléments sont déclassifiés, moi ce sera un très très bon départ pour ces éléments dans le dossier Thomas Sankara, qui permettront probablement aux juges d'orienter son investigation sur un certain aspect. Sur lesquels beaucoup de Burkinabés et peut-être beaucoup de personnes dans le monde se posent des questions, notamment l'implication de certains chefs d'État africains et ou étrangers dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara.
Maître Prosper Farama, joint à Ouagadougou.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un procureur canadien est arrivé dans le centre de la République démocratique du Congo à la demande du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour appuyer l'enquête sur le meurtre de deux experts onusiens en mars. C'est ce qu'a constaté l'AFP. Le ministre malien de la Justice, Mamadou Ismaël Konaté, a démissionné hier soir. Aucune raison officielle n'a été donnée à ce changement, mais un proche de M. Konaté a affirmé à l'AFP qu'il avait démissionné pour protester contre l'acquittement d'un chroniqueur radio contestataire, Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, condamné en première instance pour incitation à la désobéissance des troupes. La Mauritanie célèbre le 57e anniversaire de son indépendance ce mardi 28 avec un nouvel hymne national et un nouveau drapeau. Deux symboles portant loin de fédérer tous les Mauritaniens. Plus de détails avec Mohamed Diop depuis Nouakchott, la capitale mauritanienne.
Le président Ould Abdelaziz l'a souligné lors de son discours à l'occasion. Pour la première fois, a-t-il dit, la Mauritanie améliore son hymne national et son drapeau pour rendre hommage à la résistance aux colonisateurs. Une victoire politique sur l'opposition. L'opposition qui avait boycotté le référendum qui a abouti à ces modifications constitutionnelles sur le plan des droits de l'homme. Comme chaque 28 novembre, des membres de la communauté noire ont célébré un deuil. En 1990, 28 militaires noirs ont été pendus pour célébrer l'indépendance. Le régime de l'époque parlait de putschistes. En tout cas, les enfants des défunts militaires réclament justice. Parmi eux, Bokar Lamtoro Camara. Pour lui, le drapeau symbolise l'impunité.
Pour nous, les orphelins, le 28 novembre nous explique. Ce drapeau, qu'il soit vert, jaune ou rouge, il est taché de sang. Et celui des innocents.
Mohamed Diop, Nouakchott pour la Voix de l'Amérique.
Gilles Christ Olympio, figure historique sur la scène politique au Togo, a appelé le président Fornia Simbé à ne pas se représenter à la présidentielle de 2020. Le régime doit accepter le retour aux fondamentaux de la Constitution de 1992 qui stipule qu'un président ne peut pas rester plus de 10 ans au pouvoir. C'est ce qu'a déclaré Monsieur Olympio. En Guinée, les radios et télévisions privées ont suspendu leur programme pour 24 heures. Elles protestent contre une menace du président Alpha Condé. Le président guinéen a interdit aux radios de donner la parole aux syndicalistes qui ont déclenché une grève des enseignants.
Je fermerai toute radio qui donnerait la parole à Aboubacar Souma, menaçant ainsi le président guinéen à l'occasion d'une rencontre samedi avec les syndicalistes, les représentants des parents d'élèves et l'association de la presse audiovisuelle privée de Guinée. 48 heures après, une radio privée est fermée pour avoir diffusé une déclaration enregistrée d'Aboubacar Souma. Aboubacar Souma, du nom du syndicaliste à l'origine de la grève des enseignants. La menace du président Condé est perçue comme une tentative de museler la presse. Le chef de l'État, lui, dit éviter les violences. C'est une grève sauvage, illégale, dénonçait-il. Lundi, l'association des radios et télévisions libres de Guinée décide, après une réunion, de suspendre les émissions de ces radios pour 24 heures, à partir du mardi. Mais avant, un programme synchronisé sur toutes les antennes a été diffusé et pendant 3 heures, des professionnels des médias se sont prononcés sur les enjeux de la liberté d'expression et de presse en Guinée. Avec cette menace du président Condé, le débat sur la liberté et l'indépendance des médias est lancé. Et depuis l'interdiction faite aux radios et télévisions privées de Guinée, on n'a pas entendu Aboubacar Souma sur les ondes. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
Le président kényan Uhuru Kenyatta a été investi pour un second et dernier mandat à la tête d'un pays divisé. Nathalie Barge.
Uhuru Kenyatta a prêté serment en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Sous les vivas de 60 000 personnes rassemblées dans un stade de Nairobi, il a promis d'unifier et d'apporter la prospérité à tous les Kenyans. La police avait bouclé ce matin une zone de la ville où l'opposition voulait se rassembler. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes contre environ 200 personnes. Au moins une personne a été tuée par balle. Non loin de là, l'opposant Raila Odinga a prononcé son discours, promettant à ses partisans qu'il prêterait serment comme président le 12 décembre. date anniversaire de l'indépendance du Kenya. Une nouvelle session du dialogue burundais de sortie de crise s'est ouverte ce mardi à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, en l'absence de l'opposition en exil. Cette session à huis clos a pour ambition d'aboutir à la signature d'un accord le 8 décembre en présence des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, selon un programme distribué aux délégués par le médiateur dans cette crise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Les délégués sont censés négocier autour de 8 points, incluant l'engagement à mettre fin à toutes les formes de violence, l'application de l'accord de paix d'Arusha et la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 4 personnes ont été tuées à Numbi lors d'une attaque dans la nuit de lundi à mardi attribuée à une milice congolaise dans une localité minière riche en coltan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Eric Manirakiza, la Minute Éco.
En Côte d'Ivoire, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny à Abidjan va coûter plus de 34 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 30 mois. Ce pont traverse la lagune Ébriée sur 376 mètres. Il relie la commune du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan, à la zone portuaire de Trècheville. Chaque jour, il enregistre quelques 150 000 passages. L'Agence française de développement finance la totalité des coûts dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. L'Angola ouvre son marché de la téléphonie à un quatrième opérateur. Un appel d'offres international va inclure les réseaux fixes, mobiles et de télévision par abonnement. Cette décision vise à renforcer la concurrence pour améliorer le service et remet en cause les intérêts de la famille de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Unitel et Movistar se partagent le monopole du secteur. Isabel dos Santos, fille aînée de l'ex-président, détient plus de la moitié du capital d'Unitel, tandis que sa demi-sœur Welwitschia, dite Chizé, détient des parts dans Movistar. Enfin, aux États-Unis, les livraisons de pétrole par l'oléoduc Keystone vont reprendre. Il y a 2 semaines, une fuite détectée dans l'État du Dakota du Sud avait bloqué les opérations. L'entreprise TransCanada a présenté un plan de réparation et de reprise des livraisons auprès des autorités américaines, approuvé sans objection.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Mazembe enfin rentré en RDC.
Vainqueur samedi à Pretoria de la Coupe de la Confédération face aux Sud-Africains de Supersport, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont quitté l'Afrique du Sud ce matin. Après l'achat de nouveaux billets et un plan de vol modifié, la délégation a quitté Johannesburg ce matin pour voler sur Ndola en Zambie avant de franchir la frontière à Kasumbalesa cet après-midi. Les joueurs sont attendus à Lubumbashi où une grande fête est prévue au stade de Kamalondo pour fêter leur victoire.
Sadio Mané, meilleur joueur sénégalais de l'année.
Le milieu offensif du club anglais de Liverpool a été désigné meilleur joueur sénégalais de 2017 par la presse sportive nationale. Sadio Mané obtient cette distinction pour la 4e année consécutive, un record. Il a recueilli 296 points à l'issue du vote organisé par l'association de la presse sportive du Sénégal. Il devance ses défenseurs Kalidou Koulibaly et Karam Bosch.
On connaît les 11 finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain 2017.
De 30 nominés, on passe à 11 joueurs retenus pour peut-être succéder à Riyad Mahrez, le vainqueur du trophée 2016. Sont donc retenus Bertrand Traoré du Burkina, Denis Onyango de l'Ouganda, Karim El Armadi du Maroc, Keita Baldé du Sénégal, Mohamed Salah d'Égypte, Naby Keita de Guinée, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, Sadio Mané, on en parlait, du Sénégal, Victor Moses du Nigeria, Vincent Aboubakar du Cameroun et Yassine Brahimi de l'Algérie.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Eh bien, Détroit a remporté le duel au sommet de la conférence Est en s'imposant à Boston 118 à 108, tandis que Cleveland a enchaîné pour la première fois depuis janvier 2016 8 victoires de suite avec son succès à Philadelphie 113 à 91. À l'Ouest, Houston continue d'écœurer la concurrence. Les Rockets ont battu Brooklyn 117 à 103. James Harden a marqué 37 points. San Antonio a laissé passer l'orage face à Dallas avec une victoire 115 à 108. À noter les 33 points de LaMarcus Aldridge. Enfin, Golden State s'est incliné à domicile face à Sacramento 106 à 110. À noter les absences de Stephen Curry et de Kevin Durant.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerrier, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Retour sur la visite du président français au Burkina Faso à l'université de Ouagadougou. Emmanuel Macron reconnaît les crimes de la colonisation et appelle à une relation nouvelle. À l'issue de son discours, M. Macron a eu des échanges houleux avec les étudiants. Suivez.
Cabré Judith Chantal, elle est de l'université Saint-Thomas d'Aquin de Saba.
Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en autant que vous-même dans l'élimination jalouse de Kadhafi?
Je ne suis pas sûr que quiconque ait eu de la jalousie pour Kadhafi. Vous pouvez s'interroger sur l'indicateur du bonheur qu'il y avait en Libye sous M. Kadhafi, et je pense qu'aucun d'entre vous n'avait forcément envie d'y être. Ceci étant dit, j'ai toujours dit très clairement, président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. Parce que je ne crois pas aux solutions militaires quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique et une solution politique construite sur le terrain. Ça ne servait à rien d'aller s'attaquer au président Kadhafi s'il n'y avait pas une solution avec la légitimité forte sur le terrain, parce qu'à la fin, ce sont les Libyens qui choisissent l'avenir de la Libye. C'est personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ou à Washington, ou ailleurs. Bon. Et donc, là-dessus, vous m'entendrez toujours tenir le même discours, avec force.
Sori Yaya, il est de l'université Norbert Zongo de Kourougou.
Bonjour à tous. Le sujet, c'est le franc CFA. Que vous dites, plus précisément, votre position sur cette question du franc CFA. Avez-vous peur, monsieur le président, d'un bloc économique intégrant le Nigeria? Nous voudrions notre indépendance économique. Le franc CFA, nous voudrons le mettre dans notre passé. Et comme vous avez dit dans votre discours, il faut rompre avec le passé.
Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Mais vous êtes en quoi alors? Si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Il n'y en a pas, il faut être sérieux. Et il n'y a pas de tabou. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Caboret décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus.
La troisième personne est une étudiante, elle vient de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso.
Et vous avez parlé d'une relation qu'on devrait réinventer, d'une amitié qu'on devrait construire entre les peuples et entre les pays. Et nous sommes sûrs que toute bonne relation repose sur un terreau fertile qui est la justice. Allez-vous, monsieur le président, enfin déclassifier les archives françaises sur le dossier Soma Sankara?
Je ne serais pas venu vous voir si je n'avais pas de réponse claire sur ce sujet. Et donc, j'ai pris la décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui ne soient pas disponibles et qui soient couverts aujourd'hui par le secret défense nationale, soient déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé.
Voilà, c'était le président Emmanuel Macron qui répondait aux questions des étudiants à l'université de Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 70 groupes armés restent actifs et continuent de recruter des enfants, la société civile demande aux autorités du pays et à celles de la sous-région une justice exemplaire pour tous les chefs de guerre jusqu'à présent arrêtés. Depuis 2016, l'ONG Child Soldier International et des ONG congolaises œuvrant dans le domaine de la rééducation des ex-enfants soldats ont interrogé plus de 150 jeunes filles sur leur situation après leur retour dans leur communauté d'origine, où elles subissent une stigmatisation et un isolement total. De Goma, capitale du Nord Kivu, reportage de notre correspondant Charlie Kazerika.
Les chercheurs de cette ONG, Chad Soldi International, ont interrogé environ 150 jeunes filles anciennement associées aux groupes armés sur leur difficulté de s'intégrer socialement dans leur communauté d'origine. Marie de la Soudière est parmi les chercheurs qui ont parcouru la région pour rencontrer ces jeunes filles.
Elles ne demandaient rien de plus, qu'on les laisse vivre comme les autres, qu'elles puissent s'intégrer, qu'elles puissent aller dans les groupes de jeunes, qu'elles puissent chanter dans les chorales. Les résultats, une mobilisation très 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 large des communautés elles-mêmes, des familles et des notables.
D'autres ONG locales ont déjà commencé les travaux de sensibilisation communautaire pour un apprentissage au métier à certaines de ces jeunes filles pour qu'elles soient autonomes dans le futur. Messieurs Simon et Joachim sont parmi ceux qui œuvrent dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Ils estiment que beaucoup reste encore à faire suite aux conflits récurrents dans leur milieu.
Puisque l'année passée, nous avons commencé avec le projet de l'alphabétisation.
Nos enfants, nos filles sont toujours exposés au risque de recrutement.
Pour l'UNICEF RDC, 80% de ces enfants ont réussi jusqu'à présent à quitter les groupes armés depuis le lancement du processus de réintégration et de réinsertion sociale, mais la situation des jeunes filles reste préoccupante. André Moussa est le chargé de protection de l'enfance pour l'UNICEF Zone Est en RDC.
On compte à ce jour à peu près de 70 groupes armés qui sont actifs au niveau de l'Est de la RDC. Et donc il est difficile d'établir exactement le nombre d'enfants qui restent encore dans les fosses des groupes armés, étant donné que les groupes armés naissent, se font, se fusionnent et chaque jour il y a toujours cette dynamique de conflit qu'on ne sait pas prévenir. Lorsque les communautés savent que les filles ont été utilisées et recrutées par les forces du groupe armé, elles subissent les rejets, la discrimination, ce qui pose un problème sérieux de réintégration des filles.
Les groupes armés continuent à utiliser des enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Le plus souvent, les chefs de ces milices se justifient en disant être des groupes d'autodéfense contre les agresseurs. Ils nient toute présence des enfants, ils sont écartés loin de notre micro et de la caméra. Ici, nous sommes au Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, où actuellement plus de 20 groupes armés sont encore actifs.
Seulement les plus forts gardent nos positions, pas les enfants. Mais nous voulons aussi être démobilisés et quitter cette brousse.
Récemment, dans un communiqué, la coordination de la société civile au Nord Kivu a demandé une justice exemplaire pour tous ces seigneurs de guerre qui continuent à utiliser les enfants au sein de leur milice. Etienne Tambalé en est le rapporteur.
L'impunité, la léthargie ou la lourdeur dans les traitements des dossiers de certains leaders des groupes armés, notamment Thabo Taberi Tcheka, chef de la milice NDC, Jamil Moukounou, chef de l'ADEF. Cette situation a posé les lits au découragement.
La sensibilisation doit donc continuer pour permettre une bonne réintégration sociale de tous ces enfants, garçons et filles ayant perdu leur enfance au sein des milices. Charlie Kassereka, Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le Zimbabwe n'est pas en manque de jeunes instruits et dynamiques. Nombreux d'entre eux sont des diplômés universitaires. Mais le pays manque plutôt d'emplois et la pression est sur le nouveau gouvernement pour renverser rapidement la situation. Anita Powell de VOA a parlé aux jeunes dans les rues de Harare qui disent qu'ils veulent que le nouveau président puisse tenir ses promesses et permettre à plus de jeunes d'accéder à des postes de direction dans le gouvernement. Solange Niamoulissa.
Innocent Kagodora ne devrait pas être là. Ce jeune de 23 ans est diplômé en sciences politiques de la meilleure université du Zimbabwe. Mais à cause de la hausse de chômage que beaucoup attribuent à l'ancien président Robert Mugabe, il est là. Depuis qu'il a fini les études en 2015, il est dans ce coin de rue, vendant des téléphones 14 heures par jour. Ses collègues l'appellent le camarade diplômé. Il dit qu'il gagne 10 dollars par jour et ce n'est pas assez pour aider son père qui témoigne.
Ça lui fait mal de dire pourtant qu'il a un diplôme. Mon fils est assez éduqué au Zimbabwe, mais il ne peut même pas m'acheter des provisions à la fin du mois.
Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a dit qu'il allait améliorer l'économie et les étudiants attendent de voir qu'il tienne ses promesses. Le jour de sa prestation de serment, les leaders des étudiants l'ont rencontré à Harare pour mobiliser les jeunes en vue des élections l'année prochaine. Ostalos Sibiza est un leader étudiantin.
Il doit des comptes sur tout ce qu'il a promis. Ainsi, chaque jeune, chaque citoyen attend de voir les choses devenir une réalité.
À leur université, les étudiants se disent confiants, mais ils aimeraient voir leurs dirigeants changer leur mentalité et se focaliser sur le futur et non sur les gloires du passé. Nyasha Shoga termine ses études en psychologie.
Quand vous écoutez la plupart de leurs discours, ils parlent toujours de la lutte des libérations. J'apprécie ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'il est temps pour eux de passer à autre chose. Leurs idées ne conviennent plus à notre époque.
Autre réaction avec Nadène Moussekiwa, qui termine ses études en sciences politiques.
Nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement et ses changements, les choses vont s'améliorer.
Et il s'inquiète pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux, comme ce jeune homme de 16 ans qui ne devrait pas être dans les rues de Harare vendant des chaussures pour 11 dollars par jour. S'il pouvait payer les frais de scolarité, il aurait pu faire des grandes choses.
Forte mobilisation de la communauté africaine pour protester contre la situation des migrants africains en Libye. Après Paris, Dakar et Washington, des manifestants sont en ce moment devant la mission de la Libye au siège de l'ONU à New York. Et Kabadou a joint à New York Doudou Steven Cissé, l'un des organisateurs.
On a été motivés avec la collaboration des différents présidents d'associations, des ONG, des hommes de médias, des artistes africains qui sont ici à New York, également des étudiants. Nous avons bien voulu, à notre niveau, organiser cette mobilisation pour dire non à l'esclavage, pour décrier aujourd'hui ce qui se passe en Libye, qui est véritablement un crime contre l'humanité. C'est ainsi qu'on a décidé de manifester pour faire entendre nos voix ici, depuis New York, qui est le cœur du monde.
Avant ce reportage, vous étiez quand même au courant de comment était traitée la communauté africaine subsaharienne en transit par la Libye pour passer la Méditerranée et rejoindre l'Europe ?
Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. Donc, à travers les réseaux sociaux, on avait des informations, mais on n'avait pas véritablement d'informations fiables à un moment donné. Mais avec le reportage qu'on a vu au niveau de CNN, ça a déclenché la colère un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, on ne peut pas se permettre de rendre un individu, un Africain ainsi. Mais c'est un problème réel. Se permettre de vendre quelqu'un comme si on était dans un marché, je pense que notre dignité a été bafouée. C'est la révolte aujourd'hui un peu partout en Afrique.
La communauté new-yorkaise, la communauté africaine se sent vraiment concernée. Vous espérez combien de personnes?
Elle va être suivie. Ce ne sera pas simplement une marche pour le jour J. On prévoit d'autres rencontres. Au niveau des Nations Unies, il y a des marches qui sont prévues au niveau de l'Union africaine, au niveau de Washington. C'est véritablement la mobilisation pour la première fois. Je vois que les Africains de New York sont solidaires debout comme un seul homme pour dire non à l'esclavage. Et je pense que ça va continuer parce que c'est un problème réel. Et également, on va nous tourner vers nos dirigeants africains afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités parce que c'est ça aussi. Il faut essayer de mettre à la disposition des jeunes Africains aujourd'hui. Ils ont besoin de travail. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de partir. Et si nos dirigeants aujourd'hui prennent leurs responsabilités, je pense que plus personne n'ira vers Libye ou vers le Maroc ou au niveau de la Méditerranée.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. En appelant au 001-202-205-2633, 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Peace!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Giorgio Narsagno, présentation Morgane Guerriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.